Bonjour, autre radio, autre culture, émission également diffusée sur audiopeople.fr. Aujourd'hui, nous recevons Romano Zanotti. Bonjour Romano.
Bonjour, Marion.
Alors, je vais prendre le terme générique, artiste, parce que tu fais plein de choses artistiques, et on va plutôt aborder le domaine de la musique, mais on va parler aussi un petit peu des arts plastiques.
C'est très, les deux disciplines ont été toujours très importantes dans ma vie, et toujours en parallèle, et en essayant de faire bien les deux choses. C'est compliqué, mais on arrive à réussir à faire des choses intéressantes parfois.
Tu es d'origine italienne, mais est-ce que tu te sens vraiment italien ou plutôt napolitain?
Bonne question. Il faut penser que les Italiens considèrent toujours, du Sud, les Italiens du Sud considèrent toujours Naples comme la vraie capitale de l'Italie, évidemment. Parce que d'abord, elle faisait partie du royaume des deux Siciles, et puis historiquement, elle était beaucoup plus évoluée, disons, que toutes les villes au-dessus de Rome, sauf Florence ou Gênes, des choses comme ça, mais sinon, ou Venise, mais sinon les autres villes, c'est des villes plutôt nordiques, quoi, disons, par rapport aux Napolitains.
C'était surtout dans le sentiment que bon, l'Italie, finalement, c'est une création assez récente. Je me posais toujours la question, je me pose toujours la question, dans le fait, est-ce qu'on se sent vraiment italien ou on se sent plutôt faisant partie de ces anciennes républiques, que ce soit la République génoise.
Mais je crois qu'il y a les deux. Les Italiens, c'est ça, italien, et aussi, en même temps, salernitain, comme moi, de la province de Salerne, donc de la Campanie, et donc très, très intéressé au mouvement du folklore, au mouvement de l'histoire de ces régions, quoi. Enfin, mais l'indépendance de l'Italie a quand même réuni, d'une certaine façon, tous les Italiens.
Alors, tu as fait des études aux Beaux-Arts de Rome.
Oui.
Mais là, je n'ai pas su, mais tu as dû faire en parallèle des études musicales.
J'ai fait des études musicales et surtout, je m'intéressais beaucoup à la musique latino-américaine. Ça, depuis l'âge de 15 ans, j'ai pratiquement été subjugué par la musique latino-américaine après avoir par hasard écouté un disque des Guaranis qui venait d'arriver en France et qui m'ont vraiment enthousiasmé, surtout avec cette musique avec la harpe et ces voix magnifiques des chanteurs que j'ai après connus à Paris. Je les ai connus personnellement et ça a été pour moi une joie et qui a motivé ma passion pour la musique de ce pays, quoi, de ce continent, plus que ce pays.
Alors pourquoi avoir fait les Beaux-Arts plutôt que de s'investir véritablement dans une carrière musicale dès le début?
Mais parce que je suis d'une famille d'artistes. Enfin, mon grand-père était graveur, mon père était ingénieur, mais il était peintre en même temps. Et on a toujours été très impressionné par la peinture, et très, très, très à l'intérieur de ça, n'est-ce pas? Et puis, on a toujours dit que je savais bien dessiner. Donc c'est difficile aussi de laisser un don, disons, qu'on a, et ne pas les mener en avant, quoi. Enfin, comme une deuxième carrière, mais ça n'a jamais gêné, la musique n'a jamais gêné la peinture et vice-versa.
Est-ce que lorsque tu es arrivé à Paris, c'est en 1957 ?
56.
C'est ça, 56, tu t'es dirigé justement sur l'étude de ces musiques traditionnelles d'Amérique latine. La peinture, ouais. Qu'est-ce qu'il en était à ce moment-là ? Tu l'avais un peu abandonnée ?
J'étais élève de Gino Severini, qui est un des plus grands peintre italien qui avait signé avec Marinetti les manifestes futuristes en 1909 sous le Figaro et qui était un des derniers futuristes vivants et qui m'a fait vraiment... ça a été un père pour moi, un père spirituel et il a vu ce que je faisais, il a parlé avec moi et il a été primordial dans les choix de ma peinture future, quoi, après. C'est-à-dire il m'a fait basculer dans l'abstraction en me donnant les clés de l'abstraction, c'est-à-dire en savoir pourquoi j'étais un peintre abstrait et un plasticien. Donc, c'est une chose que je n'ai jamais oubliée.
Et comment tu es arrivé à mélanger cette culture traditionnelle musicale avec cette œuvre artistique de peinture abstraite?
Mais c'est très simple. J'avais une bourse d'études misérable. Et j'habitais dans une chambre rue de la Harpe, je me souviens très bien, où les soirs, où c'était moi, où c'était Lélie qui devait sortir de la chambre, parce qu'il n'y avait pas assez de place. Finalement, avec ma guitare, je suis arrivé un jour, un soir, je suis passé rue Monsieur le Prince. Et je suis rentré avec ma guitare, et il y avait une dame qui était là, qui était au bar, il y avait plein de monde. Et c'était un bar où on jouait déjà la musique sud-américaine. Il y avait beaucoup de guitaristes. C'est la première fois que j'ai entendu la flûte indienne, d'ailleurs, jouée par Ricardo Galeazzi, qui maintenant il est mort depuis un certain nombre d'années, qui était un garçon d'origine italienne, mais était argentin, et qui jouait merveilleusement bien la flûte. Et donc je me suis mis à jouer là-bas, et Louise, la dame qui dirigeait l'escale, m'a proposé de continuer. Il m'a dit, tu peux venir tous les soirs, ça serait bien, tout ça. Et donc, ça a triplé pratiquement l'argent que j'avais pour vivre. Et donc, je me suis trouvé une chambre digne de ce nom. Et puis, ça m'a aidé, quoi, disons. La musique a vraiment aidé ma situation. J'ai pu rester dans les quartiers latins que j'aimais, qu'à l'époque, c'était déjà assez snob, quoi, comme maintenant, hein. Et il faut dire qu'on rencontrait dans la rue tout ce qu'on voulait. Enfin, Jean-Paul Sartre, De Beauvoir, Adamoff, John Escoff. C'était un plaisir de se balader dans ces petits morceaux de trottoir entre l'Odéon et Saint-Germain-des-Prés. Enfin, on rencontrait le monde entier.
La musique latine attirait les Parisiens.
Oui. Ça a été une grande période où vraiment tous les groupes pratiquement qui ont fait une carrière et qui encore existent aujourd'hui se sont formés à Paris. Parce que le problème, c'est qu'il y avait beaucoup d'étudiants sud-américains, mais chacun, il avait son propre folklore. Enfin, le fait de se trouver à Paris avec d'autres latino-américains, il y a eu une fusion, il y a eu une telle interprétation des choses avec la langue, l'espagnol, le quichua, l'aymara et tout ça, qui a créé un mouvement très international. Par exemple, après les Guaranis, qui chantaient pratiquement que la chanson paraguayenne et un peu la chanson argentine, parce qu'ils étaient très, très amis d'Atahualpa Yupanqui, ces personnages fantastiques de l'époque. Ben, ils ont fondé des groupes comme Los Incas, où il y avait deux Vénézuéliens et deux Argentins. Et après les Calchaquis, il y avait un Argentin, il y avait un Chilien, il y avait un Vénézuélien. Donc, chacun a apporté un peu son savoir, et ça a créé vraiment une musique qui est devenue internationale, quoi. Enfin, connue dans le monde entier.
Pour un musicien napolitain qui arrive à Paris, qui connaît...
C'est un pléonasme, napolitain. Ils sont tous musiciens.
Qui arrive à Paris, est-ce qu'il y a une interaction entre la musique italienne, la musique napolitaine et cette musique d'Amérique latine?
Et pas beaucoup. Et la musique italienne en France est encore considérée comme une musique, à part la grande musique, je parle de la musique populaire, comme un peu comme la canzonetta, non? C'est un peu pas pris tellement au sérieux. Et c'est une erreur parce qu'évidemment, la musique napolitaine, c'est quelque chose de très sérieux quand on l'analyse. Hein? Donc, j'ai toujours gardé mes souvenirs et les dialectes, surtout napolitains. J'ai toujours pratiqué les dialectes napolitains avec mes parents, avec mes frères, pour pouvoir garder cette facilité de langage, parce que c'est presque une langue, le napolitain. Et donc, ici, ça faisait un peu... Ça avait une connotation péjorative. C'était la musique qu'on chantait dans les pizzerias, dans les trucs comme ça. Donc c'était une musique assez banale. Mais nous avons eu la chance à l'époque de connaître Pierre Prévert, qui avait la Fontaine des Quatre Saisons, et qui m'a demandé de former un groupe d'Italiens, enfin, un groupe italien. Et j'ai fait Romano et son quartet, et avec George Michberg, qui était argentin, Bellandi, Marcello Bellandi, qui est italien, et Riccardo Galeazzi, qui jouait la basse de jazz. Et on a fait un numéro mis en scène un peu par Jacques et Pierre Prévert, qui étaient tous les jours là pour nos répétitions. Et ils nous ont fait un numéro un peu comme les frères Jacques italiens. Ils ont donné un peu ce côté un peu rêveur, comme ça, un peu de la comédie de l'art. Mais ils ont poussé les choses vraiment à un bon niveau. artistique. Et ça a eu beaucoup de succès. Ça n'a pas duré longtemps parce que après, il y a eu le phénomène de Machu Camus. Bon, voilà, c'est ça. Mm-hmm. Et là, ça a un peu balayé toutes ces choses qu'on faisait avant. Là, j'ai un peu laissé tomber tout le reste, sauf l'aventure, bien sûr. Et voilà, et donc j'ai commencé à faire un autre type de musique, une vision plus moderne, disons, de la musique latino-américaine, avec Raphaël et Julia.
Oui, parce qu'on ne va pas en parler aujourd'hui, ce n'est pas le but, parce qu'on va se retrouver tous ensemble lors d'une prochaine interview. Il est évident que la création de ce groupe de Los Machos Combos a eu un tel succès, ça devait être difficile de faire autre chose.
C'était très difficile de faire autre chose, mais j'ai réussi à faire mes plus beaux carnets de voyage dans cette période-là, parce qu'on voyageait dans le monde entier. Parfois, les soirées de l'hôtel à l'hôtel, c'était très long. J'en profitais pour travailler, pour prendre des notes. Et puis sinon, à Istanbul, je faisais des aquarelles. N'importe où, enfin, en Amérique, au Canada, enfin, on a fait pratiquement le tour du monde, hein, avec ces groupes qui étaient connus dans le monde entier.
Et le fait de chanter uniquement de la musique d'Amérique latine, cela t'a pas manqué de mettre à part, de mettre de côté cette musique traditionnelle
Oui. Disons que je l'ai mis de côté un peu, mais j'ai, par exemple avec les guildes nationales du disque, j'ai déjà dans les années 60, j'avais fait chant et rythme de Siciles. Donc c'était déjà un disque folklorique avec des tarentelles, avec des choses de Gesualdo, des chansons anciennes comme la Valumella, les premiers tarentelles extraordinaires. Et j'ai laissé évidemment faire son petit bonhomme de chemin. Et après j'ai fait, dans les années 70, j'ai fait chansons des salons, et c'était la chanson napolitaine plus aristocratique, disons, et grande bourgeoise. C'était vraiment une catégorie de personnes qui s'affectionnaient ce type de chansons. C'était encore une autre aile de la chanson napolitaine. Donc j'ai fait des choses italiennes, mais évidemment, je n'ai pas pu faire une carrière de chansons italiennes. Par contre, aujourd'hui, j'ai fait l'anthologie de la chanson italienne chez Harmonia Mundi et j'ai fait des concerts de musique italienne et ça fonctionne bien.
Tes recherches sur cette fameuse musique napolitaine, il y a une très grosse différence entre les musiques que l'on retrouve au XVIIe et au XVIIIe.
Absolument. Il y a l'école napolitaine, avec ne serait-ce que les pères et les fils Scarlatti, Alessandro et Domenico, non, c'est vraiment d'une modernité extraordinaire, digne de Même pour moi, Domenico Scarlatti est allé plus loin que Vivaldi, au niveau de la recherche harmonique. Et puis, il y avait aussi, je dis toujours, quand je fais un concert, je dis toujours, je vais vous chanter une chanson d'un très grand compositeur napolitain qui s'appelle Anonimo. Pour faire comprendre qu'il y a toutes les chansons d'auteurs ignoti, i soliti ignoti, non, comme on dit. Et ça fait toujours rigoler parce que effectivement la moitié des chansons que je chante dans la première partie, ce sont des chansons du peuple complètement, qui n'ont pas d'auteur. C'est la chanson populaire sans auteur.
Alors nous avons reçu il y a une dizaine de jours à peu près Angèle Parra, qui nous racontait que lorsqu'il habitait au Chili avec sa maman, il avait quoi une dizaine d'années, il faisait le tour du Chili pour enregistrer, c'est un bien grand mot, mais pour que les chansons traditionnelles chiliennes ne se perdent pas. Donc il reprenait un peu toutes ces chansons et les conservait jalousement pour le patrimoine chilien. Mmh. Est-ce que tu as eu un peu cette même démarche au niveau de l'Italie du Sud, dirais-je ?
C'est-à-dire que c'était plutôt... La différence, c'est que c'était une région, donc c'était beaucoup plus limité pour moi de faire des recherches que pour aller dans tous les Chili. C'est tout à fait différent. Mais c'est vrai que quand j'ai fait cette anthologie, il y a une dizaine d'années, je suis resté quand même beaucoup de temps en Italie et aller rechercher des chansons que j'avais complètement oubliées, hein, parce qu'en plus il y a même la façon de les chanter, les dialectes à 10 km près, il y a des petites variantes dans un dialecte, hein, c'est beaucoup, très compliqué ça, donc il fallait aller voir vraiment pour être le plus cohérent possible. Mais j'avais retrouvé, après tant d'années, un des plus grands maîtres de la chanson napolitaine, qui est Roberto Murolo, que personne ne connaît, mais qui en Italie c'est un dieu, et qui avait vraiment redonné des lettres de noblesse à la chanson napolitaine. Et moi, je considère être un élève, je le connaissais personnellement, mais il m'a appris beaucoup de choses sur la chanson napolitaine.
Qu'est-ce qui la caractérise, cette chanson napolitaine traditionnelle, dirais-je ?
Mais ne serait-ce que le fait que la chanson napolitaine, c'est une chanson, un folklore qui est connu dans le monde entier. C'est-à-dire, les chansons napolitaines, vous allez à New York et les gens connaissent les chansons napolitaines. Il y a des titres comme Torna Surriento, qui sont des classiques énormes, qui sont été chantés par Caruso, par Pavarotti, d'une façon que moi, je n'aime pas tellement, mais quand même, c'est une diffusion énorme. C'est plus qu'une chanson vernaculaire, c'est quelque chose vraiment d'universel. La chanson napolitaine, c'est expatrié, quoi. Comme les émigrants, de la même façon. En Argentine, on a des influences italiennes et napolitaines terribles au niveau des compositeurs, qui, la plupart, c'est d'origine italienne. Donc, très inspiré de la chanson, surtout la chanson du Sud. Ouais.
Est-ce qu'il y a des chansons que l'on retrouve qui ont été reprises par des chanteurs très, très, très connus actuellement ? Par exemple, que ce soit des chanteurs américains ou, par exemple, comme des Frank Sinatra. Est-ce qu'il y a des chansons napolitaines qui ont ressurgi ?
Au soleil mieux, était chanté par Elvis Presley.
Oui.
Cette personne s'y attendait. Hein, mais enfin, et vous savez que Au soleil mieux, c'est une chanson qui est écrite avec le rythme de Habanera. Tous les fois qu'il y a des concours d'Habaneras, en Catalogne surtout, parce que c'est l'endroit où la Habanera se joue beaucoup, et l'ouverture du festival, c'est Au soleil mieux, qui est vraiment la chanson napolitaine par excellence, mais écrite avec un rythme d'Havanero, de la Havane.
Mais cette chanson, elle date de quand ? Enfin, je veux dire, elle a ses origines de quand ?
1910.
1910. Oui. Et des plus anciennes, non ?
Plus anciennes, oui. Il y a énormément de chansons. Par exemple, il y a toutes les différentes parties de différentes choses, comme on dit, périodes d'immigration. Il y a eu un attachement pour certaines chansons qui sont restées dans le folklore international. Par exemple, à New York, il y a une chanson qui s'appelle Lacrime Napoletane, qui veut dire Larme Napolitaine, qui est écrite d'ailleurs avec un rythme de milonga, je ne sais pas pourquoi, et qui est, quand les Napolitains, même les fils des Napolitains qui sont à New York, par exemple, ils écoutent cette chanson et se mettent à pleurer, parce que d'abord le texte est magnifique, et ça relate vraiment la vie de leur père, de leur grand-père, quand ils sont partis en Amérique du Nord ou du Sud. Quoi. Donc l'émigration a été un grand véhicule pour la chanson napolitaine.
Et toi, alors, dans tes pérégrinations, est-ce que le fait d'avoir finalement commencé un peu avec cette musique traditionnelle napolitaine, d'être passé à la musique traditionnelle d'Amérique latine, et puis dernièrement de retrouver tes racines,
oui.
Est-ce que c'est la fermeture du cercle ?
C'est spirale, vous savez.
C'est spirale, plutôt, ouais, spirale.
On n'en a pas encore parlé.
Mais non.
Oui, mais la spirale, oui, ça a une importance énorme dans toute ma vie, parce que c'est l'élément que j'utilise pour la peinture. Que ce soit le cercle ou la spirale, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, avec la différence que le cercle, c'est quelque chose de fermé, la spirale, c'est quelque chose d'ouvert. Donc, symboliquement, ça a tout à fait une signification bien, bien, bien différente, quoi, bien profonde. Hein, c'est la mort, après l'autre, c'est la vie, quoi. Enfin, disons, d'une certaine façon.
Oui, et puis c'est, le cercle, c'est un espace fermé.
C'est fermé.
Donc, on a l'impression aussi qu'on n'avance plus.
Voilà. Il y a que le cercle, sous sa circonférence, on voit l'essentiel. Il y a beaucoup d'interprétations. Enfin, parmi les autres, le cercle, on voit les centres, mais on ne peut pas l'atteindre. Hein, c'est très compliqué. Il y a une position syncrétique autour du cercle, et puis on voit, et ça fait penser au labyrinthe en même temps, c'est-à-dire à cette espèce de choses qui étaient marquées sous les sols des cathédrales, et que les pèlerins qui ne pouvaient pas continuer leur pèlerinage jusqu'à, par exemple, à Saint-Jacques-de-Compostelle, ils se mettaient à genoux et ils suivaient les tracés des labyrinthes. Donc, et ils étaient donc absus de leur péché et tout ça. Ça représentait quelque chose de très intéressant. Mais c'était quelque chose qui allait de l'extérieur au centre. Donc on avait cette impression d'être à côté de Dieu, en même temps c'était inaccessible parce qu'il fallait faire tellement de tours pour aller à ce centre que c'était extrêmement fatigant, enfin, même mentalement.
Moi je vais te poser une question et ça va te surprendre. Figure-toi que on a des séries américaines, des séries d'un peu partout, où on présente toujours par moments des surdoués et autres. Et je ne sais pas si tu les as vus, alors, il y a par exemple le Caméléon et autres. Et lorsqu'ils veulent présenter un surdoué, quelqu'un qui est vraiment au-dessus de tout le monde, il le présente toujours avec une spirale dans la main, avec lequel il joue sans arrêt.
Ah oui.
Voilà. Je veux dire, tu te sens les surdoué?
Bon, non, je suis très modeste. Je me suis jamais considéré surdoué. Non, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, comme je dis toujours. Et j'essaie de le faire le plus honnêtement possible. Et je suis content parce que je n'ai jamais essayé de profiter des facilités qui m'étaient offertes par ma carrière de musicien, quoi, disons. Les portes s'ouvrent et puis après, il faut être très solide quand les portes se referment. Parce que dans une carrière, il y a des moments extraordinaires et puis il y a un moment où le téléphone ne sonne plus. Et si on n'est pas assez costaud, là on risque gros. Ça ne m'est jamais arrivé parce que je me suis toujours appuyé sur la peinture, je me suis toujours appuyé sur l'amour, surtout j'ai eu avec moi des personnes que j'ai beaucoup aimées et qui m'ont beaucoup aidé. Donc ça c'est très important aussi.
À partir de quand la peinture prend vraiment le pas sur la chanson, sur la musique? Si on peut dire qu'elle
prend le pas. Elle n'a jamais pris vraiment les pas, mais enfin, disons que ma peinture est devenue ma vision des choses plastique, disons de façon plastique, dans les années 60, 65, avec la naissance de l'art cinétique. Quand il y a eu ce mouvement de l'art cinétique avec les moteurs, et c'est là où je me suis intéressé justement à la spirale, et j'ai fait beaucoup d'œuvres avec des spirales, mais avec des moteurs, des micro-moteurs, qui faisaient tourner des disques avec des spirales qui se rétractaient et se distendaient, n'est-ce pas? C'est des choses comme ça. Et depuis, j'ai mené toute mon existence jusqu'à maintenant, disons, ces discours de la spirale et du cercle et des chromatismes sous les cercles. Et maintenant, je suis en train de travailler avec une grosse fabrique de ressorts qui ont découvert, à travers mon livre, ils ont découvert ma peinture. Et un monsieur qui s'appelle Maslin, qui est un grand fabricant de ressorts de Rouen, il m'a mis à disposition pratiquement sa fabrique pendant un certain nombre de temps pour que je puisse réaliser les sculptures dans son usine. C'est quand même extraordinaire.
Est-ce que ça permet d'aller plus loin quand on a cette facilité de travail?
On peut réaliser certains projets qu'on ne pourrait pas réaliser tout seul, évidemment. Ce qui nous a toujours bloqués au niveau de l'Amérique, par exemple, parce que nous, on était, par rapport aux Américains, on était des maquettis, on faisait des maquettes. Le minimal art, par exemple, ce n'est rien d'autre que des maquettes du Bauhaus, reproduites et remises de façon gigantesque dans des jardins, dans des choses. Mais ce n'était pas une invention, c'était quelque chose qui avait été créé en Europe dans les années 30, 40. Avant la guerre, disons, pendant toutes les périodes du Bauhaus, et même avant, avec les suprématistes russes, avec les futuristes italiens, toute la civilisation des machines et tout ce qui s'est passé au début du siècle. Mais on ne pouvait pas réaliser, nous, en tant que peintres, sculpteurs, comme ça, seuls, très souvent dans un atelier, voir plus loin qu'une sculpture de 2 ou 3 mètres. Quoi. Enfin, c'était vraiment un grand maximum. Ou alors des choses sous le sol. Mais bon, c'était très compliqué. Tandis que les Américains, ils prenaient ces choses et les rendaient gigantesques, évidemment. Ça prend tout à fait une autre signification. Donc, ils ont réinventé quelque chose aussi. Ils ont bien fait de faire ça, d'ailleurs.
Là, tu parlais tout à l'heure de micro-moteurs au niveau de tes sculptures, au niveau de tes spirales. Est-ce que tu as imaginé à un moment mélanger justement la présentation de tes sculptures animées, pourrais-je dire, avec de la musique?
Bien sûr. Bien sûr, même Xenakis, il a joué, parce que les ressorts, ils étaient pendus à un plafond, n'est-ce pas, et faisaient à peu près 4 mètres de hauteur. Et c'était des ressorts à distension. Et ces ressorts, en touchant les ressorts, ça faisait une vibration. Et donc cette vibration s'est dirigée vers les plafonds, et les plafonds, c'est une caisse de résonance. Donc, j'ai fait un musée d'art moderne à 67-69. J'ai fait un environnement où c'était un cube et de 4 mètres sur 4 dans lequel il y avait 36 ressorts pendus au plafond. Et les gens rentraient dans une porte, ils sortaient de l'autre, ils traversaient donc tous ces ressorts comme ça, qui n'étaient plus des ressorts. C'était une masse d'acier qui bougeait comme ça et ça faisait évidemment une sonorité extraordinaire. Ça, c'était hallucinant. Mais ça sonnait, les ressorts ils sonnent. Mais... Donc il y a un rapport avec la musique.
Et tu ne t'es jamais lancé dans la création de musique abstraite, dirais-je, contemporaine?
Oui, je n'ai jamais touché à ça parce que j'ai toujours pensé que déjà le fait de provoquer des sons et des choses comme ça dans la peinture et faire de la musique, c'était vraiment beaucoup. Ça ne pouvait pas se disperser trop parce qu'après, on n'arrive pas à tout faire, quoi. Enfin,
il y a une chose qui m'avait... J'ai lu une partie de ton livre, j'ai pas, malheureusement pas tout lu parce qu'on me l'a donné très en retard. Il y avait une chose qui m'a un peu touchée, qui m'a même beaucoup touchée, c'était le fait que tu disais « Je me suis sentie soulevée et propulsée vers le haut, là où il n'y a presque plus d'atmosphère, là où seulement certains peuples peuvent encore respirer, grâce à la réserve accumulée par des années de frustration et de malheur. » Et c'est seulement à ce prix que nous pouvons atteindre une certaine hauteur. T'as pas un sentiment très...
Non plus, il y a moins de monde.
T'as pas un sentiment très chrétien à ce niveau-là?
Absolument, oui, je pense. Oui, je suis chrétien, mais je suis pas pratiquant. Enfin, mais j'ai mes propres visions des choses.
Non,
quoi,
parce que plus, ceux qui souffrent le plus iront vers Dieu le plus facilement.
Absolument. Mais la souffrance, c'est aussi... est nécessaire dans la vie. Comme toute chose, on ne saurait pas ce que c'est le bien s'il n'y avait pas le mal. Donc, ça forme quand même certaines choses et ça empêche de faire des faux pas, des choses sans intérêt. On essaye d'accrocher des choses qui ont de l'importance pour soi. Quoi. Enfin, donc, c'est comme un rebondissement sur quelque chose pour aller plus haut. Quoi. Enfin, comme le principe d'Archimède. Hein. C'est la même chose.
Est-ce que le principe de création, pour toi, c'est une souffrance? Le fait de créer quelque chose?
Non, je me méfie beaucoup des peintres et des artistes qui disent je mets tous mes tripes dans ma peinture. Tout ça. Mais ça, ça ne me touche pas du tout. Je crois que la peinture, l'art en général, c'est quelque chose qui est même en dehors de nous. C'est quelque chose qui existe et que l'artiste il a cette possibilité d'aller le chercher et la réaliser pratiquement. Donc c'est presque un jeu, mais un jeu qui peut être douloureux, effectivement. On peut se cogner à des choses très dures.
Pour toi, ce n'est pas systématiquement le fait artistique, la création artistique, n'est pas spécialement une mise à nu de sa personnalité propre.
Je suis plus proche de la participation de l'homme à ma peinture, c'est-à-dire aussi bien l'intégration dans l'architecture. Pour moi, une grande frustration de ma vie, c'est de ne pas être architecte, par exemple. Je n'ai pas eu le temps d'être architecte, parce que faire habiter les hommes, les faire habiter dans un endroit que tu as pensé et que tu as structuré pour eux, c'est peut-être l'une des plus grandes satisfactions qu'un homme peut avoir, enfin, qu'un homme, une femme, évidemment. Mais je pense que l'architecture, c'est vraiment le grand art. En tout cas, mais c'est utile. Hein? On dit que l'art est inutile, tandis que l'architecture est utile. Non?
L'architecture arrive à être un art finalement utile
oui,
à l'homme.
Malheureusement, les architectes, c'est rare qu'ils soient des très bons plasticiens. C'est rare. Il y a une espèce de cassure entre la plasticité inutile, soi-disant, de l'art et l'architecture. Quoi.
Pourtant, on dit, par exemple, que comme architecte, Jean Nouvel est un de ceux qui arrivent à être aussi plasticien qu'architecte.
Oui, ça doit arriver, heureusement. C'est un miracle. Ça n'arrive pas souvent, des choses comme ça. C'est toujours l'œuvre, même quand on voit, pour parler terre à terre, quoi, disons les 1%, d'architecture qu'on donne, c'est une somme pour faire une œuvre artistique, c'est franchement nul. Enfin, moi, je n'ai pas vu énormément des 1% valables. Par contre, la ville qui achète une sculpture de Galder, des choses comme ça, c'est tout à fait autre chose. Mm-hmm. Ça s'intègre vraiment dans la structure.
Oui, parce qu'on pourrait voilà. Imaginer que l'œuvre de l'architecte est une œuvre artistique. Donc,
oui, les architectes, c'est prendre pour des sculpteurs, en principe.
Voilà.
Hein. Mais des sculpteurs dans lesquels il y a les hommes qui rentrent, et qui vivent, font des enfants et tout. L'artiste, c'est un autre procédé. C'est plus... Il y a le côté spirituel de la chose. Quoi. Enfin, côté de la, comme disait Mondrian, le symbolisme de la croix. Avec son interception de la spiritualité verticale et du comportement terrien de l'homme horizontal, Et donc, il y a beaucoup de choses à raconter, évidemment, là-dessus. Et ça m'a beaucoup aidé. Et j'ai beaucoup exploité ce type de vision de la spiritualité et du mouvement temporel de l'homme. Voilà. Un artiste, vous savez, un peintre, c'est rare qu'il puisse être en même temps un conférencier de sa propre rêve. C'est très difficile.
Alors, j'ai bien aimé aussi une phrase que tu dis à propos du libre arbitre. Tu disais que c'est. Tu parlais de la spirale ou du ressort en disant que c'était un parcours infini, avec, dans les sens horizontal et vertical d'ailleurs. Et tu parlais que c'est notre libre arbitre, car on peut aussi bien monter au ciel que descendre au plus profond et abject de nous-mêmes. Est-ce que tu n'as pas l'impression, là, je vais un peu en dehors de la musique et de l'art. Est-ce que tu n'as pas l'impression que les gens, actuellement, que l'homme a un peu oublié son libre arbitre ?
Ben oui, justement. Il faut garder, il faut essayer de garder son libre arbitre. Ben sinon, on devient les esclaves des pires dictateurs. C'est ça, quoi, le libre arbitre. Vous savez, Somerset Maugham avait écrit « Le fil du rasoir ». C'est bien une grande représentation du libre arbitre, parce qu'on a une ligne, et puis on peut tomber à droite ou à gauche. Et donc, il faut essayer de rester sous la ligne. Donc, c'est ça, pour moi, une des représentations du libre arbitre. En réalité, j'ai toujours fait ce que j'avais envie de faire. Et peut-être c'est une chance extraordinaire. Je sais pas, j'ai toujours fait ce que j'avais envie de faire, et puis je me suis confronté à des choses où il fallait faire des choix, évidemment, et bon, je m'en suis assez bien tiré, ou des choix. Voilà.
Alors, comment tu conçois ta vie maintenant ? Tu la partages entre la musique et la peinture et la sculpture ? Comment ça se négocie, tout là, ça ?
J'ai la chance de faire cette musique napolitaine, en plus, en ce moment, qui a un certain succès. Et donc, par exemple, il y a Rouen, qui est la ville de Rouen, qui est jumelée depuis un siècle avec Salerne. Donc je me retrouve là, dans une situation intéressante, parce qu'on a fait appel à moi pour représenter Salerne dans cette manifestation de Rouen. La même année où il y a l'armada qui arrive, il y a des choses qui se passent, c'est assez extraordinaire. Et donc, j'ai été choisi pour faire ça, donc on me fait une exposition très importante, une rétrospective, hein. Et puis, on me fait un concert, une conférence sur la musique sud-américaine et sur la musique italienne. Donc, c'est vraiment un truc, ça dure une semaine, c'est toute une sorte de symposium, non, comme ça. Et ça, c'est intéressant. Ça me plaît beaucoup de faire ces choses-là. J'ai un galeriste à Rouen qui est extraordinaire, qui s'appelle Daniel Duchose, qui vraiment. C'est un vrai galeriste, quoi, comme on n'en fait plus. C'est quelqu'un qui vous appelle et qui dit je vous ai vendu un tableau. Mais avec une joie, comme tous les contraires parfois d'autres galeristes qui disent 6 mois après qu'ils ont vendu un tableau. Et bon, c'est très compliqué. Lui, c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement fort. Et c'est un peu lui qui en a parlé. Il a dit mais vous savez, il y a un peintre que j'ai dans la galerie qui est de Salerne. Alors, c'était un branle-bas de combat, tout le monde. Et on a organisé ça, et ça va être un mois de novembre. Donc, ça, c'est intéressant de voir. Les choses, après, elles se croisent, non ? La musique et la peinture.
Ou alors comme une spirale qui se rapproche.
Ou comme une spirale qui se rapproche. Et là, je viens de parler ce matin avec la Joan Homer du 13e arrondissement. Ils font une semaine italienne, et là, on m'a réservé aussi une salle pour faire une exposition. Peut-être un concert aussi, peut-être. Il savait pas que je chantais. On m'a pris pour la peinture. Donc, je lui ai parlé de la musique. Et là, mais on pourrait peut-être faire quelque chose. Donc, c'est des tas de mouvements comme ça. Et bon, et puis, ça marche très bien aussi en Allemagne. Il y a une très grande clientèle pour l'art construit. Hein. Parce que, quand même, c'est une grande tradition, ne serait-ce qu'à cause du Bauhaus, de l'art géométrique. Donc, on fait de très belles expositions en Allemagne. Au musée d'Aix-la-Chapelle, au musée de Saarlouis, Saarbrück, c'est bien.
Est-ce que les musées étrangers sont intéressés par ta peinture pour faire partie de collections permanentes ?
Oui, il y en a quelques-uns, oui. Oui, quelques-uns. Il y avait, par exemple, Ciudad Bolivar, à Venezuela, il y a un tableau, moi. C'est Soto qui l'a amené. Et il a fait son propre musée. À Saarlouis, j'ai des tableaux, au musée de Saarlouis, à côté de Metz, hein, mais c'est en Allemagne. Et bon, j'ai à Montbéliard, au musée de Montbéliard, il y a un tableau à moi aussi, très très beau, dans les châteaux de Württemberg, enfin, c'est extraordinaire. À Rome, j'ai un tableau aussi dans un musée de l'art contemporain qui est basé sur l'art géométrique aussi, musée du design et de l'art géométrique. Ça va, il y a des œuvres un peu éparpillées un peu partout. Hein. Je ne suis pas encore allé ni en Pologne. En Pologne, je suis allé comme musicien, mais je ne suis pas allé comme peintre. En Pologne et en Russie, par exemple, ça m'intéresserait beaucoup d'aller voir un peu à Saint-Pétersbourg et puis surtout regarder un peu les anciens suprématistes comme Malevitch, Lorionov, tous les grands constructivistes des années 10, quoi, des années 20.
Est-ce que le ministère de la Culture français, par l'intermédiaire des FNAC et des FRAC, sont intéressés par ta peinture et ton style de peinture?
Oui, les FRAC et les DRAC, oui, ils ont acheté. Oui. C'est périodique, quoi. Tous les deux ou trois ans, ils achètent quelque chose. Comme ça.
Ils sont en train de se monter la collection Zanotti.
Oui, on verra. Mais pour l'instant, non, pour l'instant, ça va. Puis, disons que tout le monde parle des crises, de l'art, crise de la peinture et tout ça. Bon, moi, j'ai la chance de tomber avec des gens compétents et honnêtes. Et donc, je n'ai jamais eu de gros problèmes de vente, d'exposition. On m'a toujours exposé assez facilement, quoi. Disons, donc, je sais pas. Je sais qu'il y a des gens qui souffrent énormément, qui n'arrivent pas à vendre des tableaux, surtout à Paris. Hein. Moi, je trouve qu'en province, on vend plus. Les gens sont plus intéressés. Peut-être pour un autre type de peinture, plus figurative, plus régionale presque. Hein. Enfin, moi, c'est un cas tout à fait unique à Rouen quoi, de me retrouver avec être le représentant de l'art construit, parce qu'ils ne connaissaient presque pas. Hein. C'était un travail de galeriste, de faire des conférences sur ça, de parler aux étudiants, parce qu'il avait une très grande galerie. Quoi. Enfin, il y avait beaucoup d'étudiants qui venaient, et lui, il faisait des conférences sur l'art contemporain. Ça ne se fait pas beaucoup ici. Hein. Je ne vois pas rue de Seine des gens qui font des conférences sur l'art contemporain avec des étudiants. C'est qui est un peu triste d'ailleurs, parce que quand tu passes la rue de Seine, toutes ces galeries elles sont vides. Et il y a une personne là qui est là, et vous rentrez, vous regardez, vous sortez, on vous dit bonjour, dit bonsoir. Tout ça, c'est... vous ne trouvez pas
c'est inquiétant. C'est vrai.
Je ne sais pas de quoi ils vivent.
Tout à fait. Et puis maintenant, là, avec... justement, on a le musée du Quai Branly qui n'est pas loin. Oui. Donc, il y a beaucoup de galeries qui se sont transformées en présentant des objets d'art africain, enfin d'art primitif, d'art premier.
Bien sûr.
Voilà, donc on est en train de changer un petit peu l'atmosphère de la rue de Seine. Oui,
maintenant, c'est un beau lieu, c'est le troisième, par exemple, l'arrondissement, toute la rue de Fille du Calvaire, hein, tout ça. La rue Charlot, où Denis René a ouvert une nouvelle galerie depuis déjà une dizaine d'années, hein, une quinzaine d'années. Grande galerie qui était dessinée par l'architecte qui a fait la Bibliothèque nationale, Perrault. Voilà, c'est Perrault qui lui a dessiné sa galerie. Et c'est presque un musée maintenant, parce que pour moi c'est la plus grande divulgatrice de l'art construit, c'est Denise René. Enfin, c'est vraiment un personnage mythique et quelqu'un de très agréable aussi à vivre. Je l'ai très bien connu et je vais m'exposer dans sa galerie, et c'est quelqu'un d'exceptionnel.
Alors, arrivé où tu en es, qu'est-ce que tu penses de ta carrière?
Mais je peux citer la phrase typique de Neruda, j'avoue que j'ai vécu. c'est le meilleur livre, qui est toujours d'un grand optimisme et de grande joie. Quoi. Enfin, je suis tout à fait d'accord avec lui. J'ai vécu, oui. J'espère que je vais vivre encore quelques années.
Une satisfaction d'avoir marqué son temps?
J'ai aimé beaucoup me rendre compte que j'ai collé pendant un moment vraiment à tout ce qui s'est passé. Quoi. Enfin, j'ai la chance d'être dans l'histoire de l'art abstrait de MAG, comme à l'époque jeune artiste, enfin italien. Hein. Je suis dans la naissance de l'art cinétique de Frank Popper. Ce sont des trucs importants, parce que c'est l'histoire. Quoi. Je suis plutôt optimiste.
Alors je vais te poser une question. J'avais dit que je te la poserais. Par rapport à un débat qu'on va avoir dans quelques semaines... par rapport à l'art contemporain, l'art abstrait, il y a quelqu'un qui pense qu'il y a un certain narcissisme dans l'art contemporain. à ton avis?
Narcissisme, c'est difficile de parler de narcissisme, mais c'est plus clair, je crois, plus logique de parler d'ego. Les artistes sont les pires égocentriques, enfin, il n'y a qu'eux qui comptent. C'était difficile de trouver un artiste avec une vision altruiste des choses. Enfin, tout un peu ramené à lui. Je trouve que c'est plus l'ego que le narcissisme. Narcissisme, c'est une connotation un peu... Ça me fait penser à un faune, ouais. Plutôt, chose que je ne suis pas. Donc, oui, un ego, ben, je pense que tous les gens, on a tous un ego. Quoi. Mais il y en a qui sont plus évidents que d'autres. Hein.
Bien, tu nous as déjà donné le calendrier de ce qui allait se passer à Rouen.
Oui.
Au niveau chanson, est-ce que tu as quelque chose de prévu?
Ben oui, on est en train justement de terminer un disque, là. Dans ce studio.
Dans ce studio, oui.
Plus. Et je pense que, bon, on dit que les CD ne se vendent plus, mais enfin, bon, on fait les disques, mais c'est surtout dans les galas qu'on les vend maintenant, les disques.
Oui, hein. C'est ça, oui. Ben,
sinon, c'est des DVD. Mais on a fait la tournée d'Achetendre Tête de Bois, qui est une tournée qui nous a ramené de nouveau des années en arrière avec des publics immenses. Ça nous a fait beaucoup de bien. Ça nous a donné un peu réconforté, quoi. Voilà.
Bien, merci beaucoup, ben, Romano, d'être venu. Ça m'a fait très plaisir.
Moi aussi, j'ai eu un énorme plaisir.
Je sais qu'on va se retrouver très bientôt avec Raphaël.
Ben oui.
Pour parler de la grande aventure de Los Machucambos.
La grande aventure. De la tribu des Machucambos.
De la tribu des Machucambos. Oui. Et puis, bonne continuité, bonne chance.
Merci.
Merci. Et à très bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
C'était Autre Radio, Autre Culture. La prochaine émission, c'est sur le handicap et l'école, débat qui aura lieu le vendredi 14 mars. Voilà, merci, au revoir. Autre radio, autre culture.